Et si cette impression qu'on a tous là, d'être un moi bien séparé qui se balade dans le monde, si tout ça c'était juste une illusion? Mais alors, qui se pose la question au juste?
C'est vertigineux, hein?
Carrément. Et c'est un peu dans ce genre de vertige qu'on va plonger aujourd'hui. On explore des extraits d'un livre assez spécial qui parle de non-dualité. Ça vient d'une tradition, l'Advaita Vedanta.
Oui, et ce livre a un ton particulier, c'est vrai. Un mélange de profondeur, mais aussi d'humour et des exercices assez inattendus.
C'est ça. Du coup, notre idée, c'est d'aller chercher un peu les pépites dans ces textes.
Tout à fait. Pas forcément pour trouver la réponse, mais plutôt ouvrir une autre perspective sur la réalité, sur soi. Et peut-être voir comment aborder le quotidien avec un peu plus de légèreté, quoi.
Bon, alors, allons-y. Le cœur du sujet, c'est cette non-dualité. L'idée que, malgré tout ce qu'on voit, là, toute cette diversité, en fait, la réalité, tout au fond, elle serait une, indivisible. Les sources donnent des images fortes pour ça. L'océan et les vagues, par exemple.
Ah oui, ça c'est classique et très parlant. La vague, elle a l'air unique, séparée, mais non, elle est l'océan. Juste une forme temporaire.
Ou l'écran de cinéma.
Exactement.
J'aime bien celle-là aussi.
Exactement. L'écran reste là, stable, peu importe le film, triste, joyeux, violent. C'est un peu ça l'idée de cette philo indienne. Il y a cette phrase célèbre des Upanishads.
Ah oui ?
Tat Tvamasi. Littéralement, tu es cela. En gros, ton essence la plus profonde, l'Atman, c'est la même chose que cette réalité unique, le Brahman. La Bhagavad Gita dit un truc similaire. Le réel ne meurt jamais, et ce qui n'est pas réel, ça n'a jamais vraiment existé. C'est une autre façon de le dire.
Ok, donc cette unité fondamentale, elle est posée. Mais franchement, notre expérience de tous les jours, elle crie le contraire, non ? Le moi, les autres, la séparation, les conflits.
Oui, bien sûr. Et c'est là qu'intervient un autre concept crucial, Maya.
Maya.
Voilà. Maya s'est décrit comme un voile, une sorte de pouvoir d'illusion qui vient masquer cette unité, qui crée cette impression de séparation, de multiplicité.
Donc, le monde existe quand même, mais on le voit déformé.
C'est un peu ça. Comme si on avait un filtre sur les yeux, tu vois. Ou comme le tour du magicien qui te fait prendre une corde pour un serpent dans le noir. La corde est réelle, mais ta perception.
Elle est fou et fausse. D'accord. Et le truc, c'est pas juste de savoir le mot Maya, c'est de voir comment on prend la corde pour le serpent, tout le temps, dans nos réactions, nos peurs.
Absolument. L'exemple de la file d'attente au supermarché, dans les textes, il est parfait pour ça.
Ah oui, raconte.
T'es là, tu râles, tu t'impatientes, et puis soudain, tu réalises que toute cette agitation intérieure, c'est juste une petite vague. Une vague sur l'océan de la conscience. Et hop, d'après le texte, ça peut amener une paix assez inattendue. Même là, entre les promos de yaourt.
C'est fou, ouais. Ça montre que c'est pas juste de la théorie perchée.
Non, l'idée, c'est que ça peut s'appliquer très concrètement.
Et ça nous amène direct à questionner ce fameux « moi », alors. Si Maya crée l'illusion de séparation du monde, elle fabrique aussi ce sentiment d'être un individu à part.
Oui, c'est exactement ça. Maya, c'est pas que pour le monde extérieur. C'est aussi elle qui est à la racine de la construction de ce qu'on appelle le petit moi, l'ego, cette identité qu'on croit si solide.
Un rôle qu'on joue, une histoire qu'on se raconte.
Voilà. Et les textes proposent des exercices assez savoureux pour en prendre conscience.
Oui, hein.
Le miroir universel. Essayer de voir tout le monde, même le voisin qui râle tout le temps, comme une autre version de soi, une manifestation de la même conscience. C'est un sacré challenge quand même.
C'est un entraînement, ouais.
Ou déconstruire l'identité. Questionner toutes les étiquettes qu'on se colle. Je suis comme si, je suis comme ça.
Et l'anecdote du sourire de l'enfant dans le métro, elle est jolie aussi. Un flash où la séparation disparaît.
Et cette idée de miroir, elle est super importante dans les relations, évidemment. Ce qui nous énerve chez l'autre.
Les chaussettes qui traînent.
Par exemple. Selon cette perspective, ça peut nous en dire long sur nous, sur notre besoin de contrôle, notre propre bazar intérieur. C'est voir la relation comme un outil pour se connaître, quoi. Pas juste une source d'embrouille.
C'est intéressant. Mais est-ce qu'il n'y a pas un risque parfois de fuir les vrais problèmes avec ça, de tout intellectualiser, de se dire « Oh, c'est juste Miaya » et puis rien faire ?
C'est une très bonne question et elle est légitime. L'idée telle qu'elle est présentée, c'est pas du tout d'être passif ou de nier les difficultés. C'est plutôt que même quand on agit, même quand on doit poser une limite claire, par exemple.
D'accord.
Si on a cette compréhension de l'unité derrière, ça peut changer la Thalie. La couleur de l'interaction. Moins de charge émotionnelle, moins de crispation sur « moi j'ai raison, toi t'as tort ».
Ça enlève un peu de drame, peut-être.
Voilà. Et l'humour, qui est très présent dans le livre qu'on a lu, il pointe vers ça aussi. Faut pas se prendre trop au sérieux, même dans cette quête.
Ah oui, cet humour est partout. Méditer sur le vide en changeant une couche, ça m'a fait rire. Ou voir la belle-mère qui débarque sans prévenir comme une preuve de la présence de Brahman.
C'est ça. C'est une invitation constante à la légèreté, à trouver le sacré dans le banal, dans l'absurde même. Les exercices comme les patates chaudes paradoxales, ou le détective paranoïaque de Brahman, où tout devient un indice de l'unité.
C'est une façon ludique, en fait, d'intégrer ça sans que ça devienne trop solennel, quoi.
Exactement. Pas un dogme rigide.
Ok, alors si on essaye de résumer un peu les éclairs de sagesse qu'on a piochés là. Il y aurait une réalité, une fondamentale, la non-dualité.
Oui.
Masquée par une sorte de voile d'illusion, Maya, qui crée notre sentiment d'être un moi séparé.
C'est ça.
Mais on peut avoir des aperçus de cette unité partout, dans le quotidien, dans les relations vues comme des miroirs, et souvent avec humour et légèreté.
C'est une bonne synthèse, ouais. Et le message sous-jacent, c'est que tout ça, c'est pas juste pour se torturer les méninges, hein. Ça peut devenir des outils pour naviguer la vie avec un peu plus de paix, moins d'attachement à nos petites histoires perso.
Et une bonne dose d'autodérision, ça aide toujours.
Ok, oui.
Bon, pour finir, il y a une question qui reste un peu en suspens, après tout ça, inspirée des textes sémiques. Si celui qui cherche est le trésor qu'il cherche, la paix, la compréhension, si en fait c'est la même chose, qu'est-ce qu'il reste vraiment à chercher? Et comment cette réalisation, juste ça, ça pourrait changer le goût de chaque instant?
Vaste question pour la route.